À Marseille, on dialogue de manière diverse. Il y a ce dialogue de la vie qu'on appelle d'abord, qui est le dialogue au fond du voisinage. Et je remarque que c'est pas dans les quartiers où il y a cohabitation entre des gens de culture chrétienne et des gens de culture musulmane, de Français de culture musulmane, de Français de religion musulmane, de Français de religion chrétienne. Les deux qui habitent dans les mêmes immeubles subissent les mêmes difficultés qui peuvent être liées à la qualité du logement, qui peuvent être liées au chômage, qui peuvent être liées au trafic de drogue, etc. Mais dans ces conditions difficiles pour tous, il y a une fraternité au quotidien qui est réelle. Il y a un dialogue de la vie qui se traduira par des petits gestes et aussi par la vie associative partagée. Donc ce dialogue-là, il existe réellement. Des lieux où il y a du dialogue, pour nous, c'est l'enseignement catholique, où on a quand même des écoles qui ont un pourcentage très important d'enfants, de familles de religion musulmane. Dans des écoles, ça peut aller jusqu'à 90%. On a un lieu plus symbolique, qui est la rencontre d'une dizaine de prêtres et d'une dizaine d'imams, qui régulièrement, tous les mois et demi, deux mois, se retrouvent pour un partage spirituel, mais qui du coup ancre une connaissance réciproque, une estime réciproque qui est forte. Après, il y a des difficultés, bien entendu, qu'il y a des difficultés à cause des raidissements des uns et des autres, à cause de la question de la liberté religieuse, à cause de la question du droit de changer de religion, à cause des images négatives qu'on peut porter les uns sur les autres, à cause des légitimes peurs qui peuvent habiter également les uns et les autres. Mais je remarque que la peur est peut-être un ressort plus fort chez ceux qui ne fréquentent pas au quotidien des musulmans que ceux qui les fréquentent au quotidien.
C'est pas une question de palier.
C'est pas une question de palier.
On a beaucoup parlé de Marseille récemment aussi, depuis plusieurs mois, au sujet de la violence, de tous ces meurtres qui ont eu lieu, question de contrôle du territoire, de la drogue, etc. Je voulais vous demander, est-ce que vous en avez parlé? Est-ce que vos fidèles vous en parlent? Est-ce que les prêtres vous en parlent?
Paradoxalement, nous en parlons peu. Je pense qu'il y a deux raisons. La première, c'est que l'analyse que nous portons presque tous est de dire c'est une violence interne aux réseaux qui vivent de la drogue. Et donc, c'est entre eux que cette violence-là se passe et ne rejaillit pas sur l'immense majorité des Marseillais. La deuxième chose pour laquelle nous n'en parlons pas, je crois, c'est que nous sommes blessés par cette image qu'on donne de Marseille et qui occulte toute la part importante de tissu associatif présent auprès des plus pauvres en particulier, parce que Marseille est une ville pauvre. Tout l'aspect culturel qu'il peut y avoir à Marseille, et nous nous préparons à rentrer dans l'année de Marseille-Provence, capitale européenne de la culture, avec tout un dynamisme qui est là derrière. Bon, à travers la beauté aussi de ce site de Marseille, la qualité de vie qu'on peut trouver aussi à Marseille, même si elle est inégalement partagée, bien entendu. Mais ce n'est pas quelque chose qui revient. Ce qui reviendra un peu plus, ça va être des violences d'un autre ordre que celle que vous évoquez, qui est la petite délinquance qu'on trouve dans toutes les grandes villes, autour du trafic de l'or, avec l'arrachage des colliers, ou je ne sais pas quoi. On a quelques prudences à avoir, c'est vrai, mais je crois que c'est comme dans toutes les grandes villes. Ce n'est pas beaucoup plus fort à Marseille qu'ailleurs. Il y a au contraire, à Marseille, avec ce brassage de population dans tous les quartiers, une qualité de vivre ensemble qui n'est pas inférieure à celle d'ailleurs. Je crois même qu'elle est supérieure.
Mais du coup, on fait comme si ça n'existait pas ?
Non, on ne fait pas comme si ça n'existait pas. On en est marqué. Moi, j'ai vu des puisqu'une fois j'ai enterré une des victimes parce qu'elle était de famille chrétienne, donc on voit les pleurs, on voit les larmes, on ne fait pas comme si ça n'existait pas, ça ne nous fait pas plaisir. Mais on constate de fait, comme vous le disiez, qu'il y a comme des zones de non-droit où il va être très difficile à l'État de reprendre position, à l'État de remettre des services reconnus, à remettre de l'éducatif, à remettre du travail, à remettre du logement de qualité, à redonner des projets à cette jeunesse pour qu'elle ne choisisse pas plutôt la drogue que des formations éducatrices et diplômantes qui lui amèneraient un avenir plus sûr. Mais ça fait aussi la souffrance des adultes, puisqu'on reprend la question antérieure, musulmans qui sont démolis par la dérive de leurs grands-enfants parfois.
Comment est-ce qu'on fait pour évangéliser dans une ville comme Marseille ?
La première chose qui nous est demandée, c'est de nous vivre l'évangile nous-mêmes. Et c'est notre conversion première qui est compliquée, qui est exigeante, qui est sans cesse à renouveler. On est là, enfin, depuis 2 ans, j'ai écrit une lettre pastorale sur ce thème, et nous prendre conscience que la communauté chrétienne doit d'abord sans arrêt se remettre devant l'évangile, se remettre devant le Christ, se remettre devant les exigences de la suite du Christ, et puis donner ensuite le témoignage que le Christ est vraiment une lumière et non pas un slogan. Donc il ne s'agit pas d'un slogan, il s'agit d'une personne rencontrée, aimée et qu'on essaie d'imiter et par laquelle on essaie d'être renouvelé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, après, c'est d'oser prendre des initiatives. Et je vois que de plus en plus, dans les paroisses, dans les mouvements, l'an dernier, on a eu une très bonne dizaine de jours autour de l'Ascension, Pentecôte et au-delà, où beaucoup de communautés chrétiennes, beaucoup d'écoles catholiques, des mouvements, des services, ont pris des initiatives pour inviter à dire la foi et à la recevoir. Et je vois que cet élan est en train de s'approfondir et de devenir comme une habitude du chrétien qui doit partager sa foi. Mais pour la partager, il faut d'abord qu'il la vive. Donc il nous faut tenir les deux, conversion et témoignage, conversion et annonce, conversion et annonce, conversion et annonce.